Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission que j'ai le plaisir d'animer alors que ces derniers temps je n'étais pas là et j'étais remplacé efficacement par le cher Jean Hernis qui se trouve dans le studio avec nous. Bonsoir Jean.
Bonsoir Adrien, bonsoir chers auditeurs, je vous prie de m'excuser, j'ai la voix un petit peu enrayée, j'étais au match de rugby du Stade Français tout à l'heure à côté de nos locaux et j'ai perdu un petit peu de voix là-bas.
Très bien, merci, merci Jean. J'ai aussi le plaisir de recevoir un habitué maintenant de cette émission, François Charmeau, bonsoir.
Bonsoir Adrien et bonsoir à tous.
Et un petit nouveau, Jérôme. Bonsoir Jérôme.
Eh bien merci, bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs, merci de m'accueillir.
Alors, au programme de cette émission, pas mal de choses. Vous savez, aujourd'hui nous sommes le 9 mai. Alors le 9 mai, tout le monde sait que c'est la journée de l'Europe. Et c'est aussi, chaque année, le moment d'une manifestation en hommage à un militant nationaliste qui a été tué, Sébastien Desieux, lors d'une manifestation contre l'impérialisme américain en 1994. Et chaque année, un hommage est rendu par ses camarades. Ça fait plusieurs années que cet hommage tente d'être interdit. C'est... Souvent, le tribunal administratif casse le jugement qui interdit cette manifestation et cette année, finalement, la manifestation a été interdite et ça a été validé par le Conseil d'État. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jean Hernis ?
On n'est pas surpris que le Conseil d'État valide la décision du tribunal administratif. Que le tribunal administratif valide cette interdiction, c'est assez surprenant parce que le tribunal administratif, il est là avant tout pour appliquer une jurisprudence et pour appliquer des principes. Et le principe de commémorer la mort d'un jeune homme et même de plusieurs militants, parce que l'hommage du 9 mai est depuis plusieurs années ouvert aux militants identitaires nationalistes qui ont été tués. Et donc l'hommage était cette année particulier, avec également une pensée pour Quentin de Ranque, qui a été tué il y a déjà plusieurs mois. De ce fait, l'hommage était particulier et un hommage solennel qui rassemble chaque année un bon millier, voire 1500 à 2000 personnes les très grandes années. Mais cet hommage est systématiquement, pardonnez-moi, attaqué, que ce soit judiciairement ou dans la rue, par les milices d'extrême gauche, des milices qui répandent violence, slogans, pour le coup, outrageux et outrageants lors de ce rassemblement. Face à cela, donc on a des campagnes de presse orchestrées par des médias que l'on connaît bien pour pointer n'importe quel slogan, n'importe quel vêtement, n'importe quel tatouage porté par les personnes qui viennent à l'hommage. Et on a une chasse aux sorcières qui s'organise pour dénoncer l'apparat nationaliste de ce défilé. On peut s'étonner que le tribunal administratif, comme j'ai dit, valide cette interdiction. Ce qu'il faut dire, c'est que le tribunal administratif a été cette année renforcé par plusieurs associations et groupuscules d'extrême gauche qui ont apporté de l'eau au moulin de la préfecture pour appuyer cette décision d'interdiction. Et aujourd'hui, alors que les militants nationalistes n'ont pas pu rendre hommage aux leurs et à leur mort, les militants d'extrême gauche ont pu défiler dans Paris, tambour sonnant.
Oh, enfin, je crois que les militants d'extrême gauche avaient quand même interdiction de manifester aussi. Hein.
Non, leur village s'est bien tenu hier dans Paris. L'interdiction de manifester aujourd'hui s'est tenue effectivement, mais... La manifestation qui était principalement visée par les forces de l'ordre, c'était celle des militants nationalistes. Et quiconque avait une apparence de nationaliste a fini dans un panier à salade. Donc on adresse toutes nos amitiés à ces militants qui vont passer une mauvaise soirée.
Jérôme ou François Charmeau, vous voulez...
Peut-être plus largement, évidemment, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit par le camarade journaliste, mais plus largement, ce qui est profondément regrettable dans le cas d'espèce, c'est que c'est pas une interdiction de manifester fondamentalement qui est mise en place, c'est une interdiction de rendre hommage. Et je crois que les hommages, qui plus est quand ils sont rendus aux morts, devraient avoir un régime, d'exception. Souvent, ce qui est invoqué pour interdire une manifestation, c'est de potentiels troubles à l'ordre public, liés notamment à d'éventuelles contre-manifestations. Mais si nous étions dans un monde qui respecte la vie et donc la mort, et donc les morts, eh bien, on ferait tout physiquement pour rendre possible ces hommages. Alors, je dis pas que l'État n'a pas le droit de mettre son nez là-dedans, c'est pas le problème, mais je crois que la priorité, ça devrait être de garantir la sécurité d'abord de ceux qui veulent simplement rendre hommage à des gens qui sont tout simplement morts, décédés, et une société qui est plus capable de ça, qui est plus capable de regarder ces morts ou de laisser à minima certains regarder leur mort, bah, c'est vraiment une société qui atteint le phase terminal de décivilisation. Donc c'est une étape de plus vers la barbarie au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable aujourd'hui de permettre à un groupe social, quel qu'il soit, il se trouve que là c'est un groupe politique, d'accord, on n'est plus capable de permettre aujourd'hui à un groupe social de rendre hommage à un mort, ou en tout cas à des morts dans le cas présent, et ça c'est profondément je crois regrettable. Et pour faire un peu de politique fiction, je crois que ce serait vraiment une mesure importante à prendre, un régime d'exception, voilà, pour les hommages mortuaires.
Alors Jean-Yannis, vous dirigez.
Oui, non, et puis c'est surtout au-delà de ça, ce qu'il faut aussi pointer, c'est que le légalisme ne triomphe pas, c'est-à-dire que dans ce pays, en fait, vous n'êtes pas censé déclarer vos manifestations. Manifester est un droit de l'homme, la France se vante d'être la patrie mère des droits de l'homme. On a tous certainement beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais toujours est-il que c'est très ténu, c'est que la manifestation doit être déclarée, et si elle n'est pas déclarée, on peut vous condamner pour un rassemblement non autorisé. Donc tout ça, en fait, ça cause des choses, on est toujours dans un flou systématique. Selon que la manifestation soit bien perçue par des médias ou non, on considérera le rassemblement non autorisé comme une menace et un trouble à l'ordre public ou non. Et c'est là où les jeux sont toujours pipés, avec une presse aux ordres, et là, en fait, tout le monde est main dans la main.
Ah non, il y a Radio Courtoisie.
Non, mais bien évidemment, il y a Radio Courtoisie et d'autres médias qui ont dénoncé ce fait, bien sûr. Mais on a quand même une presse de gauche qui est main dans la main avec la police, la justice, un gouvernement. Tout le monde semble trouver normal qu'on ne puisse pas rendre hommage à Sébastien Desieux et à Quentin et à tous les militants nationalistes tués ou assassinés.
Jérôme,
qu'est-ce qui a changé depuis l'année précédente et les années encore avant? Enfin, c'est-à-dire, pourquoi on a interdit cette année? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que le comité du 9 mai est ad vitam aeternam condamné à tous les ans à avoir la même interdiction? On peut aussi s'interroger sur la méthode. Mais là, c'est pour toute manifestation, c'est toujours 2 jours avant, 1 jour avant. Vous êtes interdit, vous êtes obligé d'avoir des procédures très coûteuses pour pouvoir vous défendre. Le comité du 9 mai, c'est un groupe, un regroupement. Alors, je ne sais pas s'il est déclaré en association, mais il n'est pas dissous. Aujourd'hui, le comité du 9 mai, il n'a pas été interdit. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à les années précédentes? C'est quoi les troubles à l'ordre public dont on parle? En général, le trouble à l'ordre public, c'est le militant LFI non déclaré, présenté comme un lambda passant dans la rue, qui se met entre les manifestants et la caméra de quotidien. C'est ce qu'on voit tous les ans à la télé. Mais quelle est la justification? C'est la réponse qu'on n'a pas ce soir. Alors elle est peut-être dans les arrêtés du Conseil d'État, mais pourquoi ça a été interdit? Et qu'est-ce qu'il en est déjà de l'année prochaine, en fait?
Moi, je pense que...
La menace au trouble public, elle est caractérisée, vu qu'on a des groupes d'extrême gauche, on l'a même vu lors du 1er mai, qui appelaient à dénazifier Paris, à attaquer le cortège du comité du 9 mai. On a vu des banderoles, notamment pendant le défilé unitaire du 1er mai, qui appelaient à prendre d'assaut le Port-Royal, donc la place à proximité de là où Sébastien Desieux était décédé, était tombé de l'immeuble le 7 mai 94, puis décédé 2 jours après, le 9 mai. Voilà, donc le trouble est caractérisé et on a des...
Il est caractérisé par les gens qui vous attaquent.
Exactement. Voilà.
Oui, mais en fait le problème c'est que c'est toujours la notion de trouble à l'ordre public. Et je pense que sur des événements assez identifiés qui concernent quand même, on va le dire, et c'est pas dépréciatif, mais des marges de la société, des militants nationalistes qui... qui sont derrière le comité du 9 mai, ou les gens d'une gauche radicale qui aujourd'hui essayent de chasser ce qu'ils appellent des fascistes dans Paris, on peut considérer du point de vue de l'État que y a un trouble, il pourrait y avoir un trouble à l'ordre public si ces gens décident de se taper dessus. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que certains se font embarquer. Ils ont des armes qui sont considérées, ou des armes ou des objets qui sont considérés comme des armes par destination, et qui du coup sont embarqués. Mais moi, là où je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que, à part ce fait caractérisé, le trouble à l'ordre public aujourd'hui, il s'applique à tout, et on a bien vu ces dernières années que des simples colloques pouvaient être interdits pour suspicion de trouble à l'ordre public immatériel, ce qui est quand même une large dérive du concept de trouble à l'ordre public.
Encore une fois, c'est toujours passionnant de débattre, et c'est d'ailleurs le débat qui est, je pense, souhaité par le système préfectoral, administratif, judiciaire, de débattre sur la notion d'ordre public, de trouble à l'ordre public, qu'est-ce que c'est exactement, à partir de quand ça commence.
C'est la question que je pose.
Est-ce qu'une poubelle brûlée, c'est un truc. Mais tout ça est passionnant, mais je crois que ça s'applique d'abord et avant tout à des manifestations, évidemment. Quand on se réunit pour défendre une cause, je sais pas, on est contre le froid, alors on fait une manifestation au métro glaciaire, donc il y a les slogans, voilà, on crie à bas le froid, etc. Bon, très bien. Effectivement, il faut que ce soit encadré, il faut pas qu'on fasse brûler le métro pour autant. Et là,
pour se réchauffer,
il y a les chauds qui viennent réchauffer.
Bien joué. Je crois sincèrement que.
Jalon est en nous.
je crois sincèrement que, plus sérieusement, on n'est plus capable, et d'ailleurs, on nous enferme dans un système, y compris sémantique, complètement juridique, technocratique, etc. La réalité, c'est qu'on a besoin d'en sortir pour rappeler une évidence. Il s'agit, encore une fois,
sens, bien
pas
sûr.
D'une manifestation. C'est un hommage. Mais alors, aux morts, ça peut pas être considéré comme une manifestation. C'est pas une démonstration de force. C'est pas, on n'est pas là pour appliquer des slogans. Peut-être que certains le voient comme tel, mais la réalité, me semble-t-il, je le dis très humblement, du comité du 9 mai, c'est d'abord et avant tout de rendre hommage à des gens qui sont décédés pour leurs idéaux. Point barre, c'est tout.
J'entends bien François Germaud, mais vous disiez vous-même tout à l'heure que le problème, c'était pas tant l'interdiction, que en fait, on soit dans une société qui n'est plus en elle la culture de vie et la culture de mort, et à partir du moment où il y a cet état de fait que la société est complètement déliquescente, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État d'assurer un semblant d'ordre, puisque la société n'est pas capable de s'ordonner par elle-même.
Je vous rejoins complètement, Adrien, mais je vous sais par ailleurs, peut-être, monsieur Zizir, que vous étiez un peu thomiste sur les bords, et l'ordre, il peut être aussi moral.
Oui,
et je crois que si l'État, il ne l'est pas, assurément, mais il pourrait. Et si l'État doit rétablir l'ordre, je crois que le premier ordre dont on a besoin, c'est un ordre moral. Et dans l'ordre moral qui est le nôtre, français, européen, il y a quand même une certaine idée un peu chevaleresque qui consiste à dire que même quand l'adversaire, l'ennemi est battu, abattu, on respecte les morts, on respecte sa mort et on permet à ses camarades de lui rendre hommage, c'est tout. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut savoir appliquer, effectivement, aussi bien aux nôtres qu'aux autres.
Oui,
je rebondis, pardon, un dernier point sur ce qu'a pu dire notre camarade Xavier Aimant.
Un fidèle de cette émission.
Justement, lors d'une des émissions précédentes, nous parlions plus généralement du rapport de l'extrême gauche à la mort, et il disait que c'était eux, les souilleurs de tombes, c'est eux qui crachaient en permanence sur les cadavres. On a l'explication encore plus parfaite, et je crois que l'attitude assez digne, finalement, proposée par le comité du 9 mai depuis toutes ces années, c'est que finalement, des troubles à la République, il n'y en a pas eu, ou alors il y en a eu, mais ce n'était pas de leur fait, démontre une chose, c'est que la dignité, l'honneur, la capacité de rendre hommage calmement font encore partie de ce monde, même s'ils ne sont pas du côté de l'État.
Alors,
je pense que
Jean-Ernest,
vous avez totalement raison, François, d'insister là-dessus. C'est que, suite à l'interdiction, le comité d'organisation du 9 mai a soumis à la préfecture et aux autorités policières et politiques le fait de pouvoir déposer une simple gerbe, de ne pas de rassemblement, déposer une gerbe, donc devant la rue des Chartreux, ça a été refusé, déposer une gerbe devant la statue de Jeanne d'Arc, ça a été refusé. Donc même le fait de simplement déposer une gerbe, c'est refusé, c'est-à-dire qu'on est là face à un État qui refuse comment dire, tout hommage. On n'est pas là sur faire régner l'ordre, faire régner l'ordre public, très bien. Alors pourquoi seulement un jour par an? Parce que je veux dire, on a quand même assez de, puis, d'exemples.
Ironiquement, j'allais dire ironiquement, pour me dire ce que vous disiez, Jean, quelle est la prochaine étape? C'est on va interdire une messe? Ça a déjà été fait.
Bah oui, c'est super. Non, mais moi, le problème que j'ai bien sûr qu'il faut, et ça fait tous les ans, puisque le calendrier de Radio Courtoisie est bien fait, nous avons notre émission au moment de l'hommage du comité du 9P, et chaque année, c'est toujours notre émission commence par ce sujet. Je suis bien entendu d'accord pour le fait qu'il faille rendre hommage aux morts, à nos morts, etc. Mais je pense que de temps en temps, on est aussi, nous, à droite, et Radio Courtoisie, la radio de toutes les droites, tous les talents, donc on va prendre vraiment le spectre très large, assez agacé. Alors on n'est pas des souilleurs de tombes et on joue pas au foot avec la tête de nos ennemis comme le faisaient les républicains espagnols pendant la guerre civile. Mais franchement, moi quand on rend hommage à certaines personnalités publiques de gauche, à la radio, à la télé, etc., etc., et qu'on en fait des caisses, ça me sort par les trous nez, pardonnez-moi de parler trivialement. Et je comprends oui, mais... qu'un État qui n'est pas forcément l'allié objectif des forces de droite et a fortiori des gens qui sont des militants politiques violents en face, fasse tout pour que ça n'ait pas lieu.
Mais Adrien ne demande pas ce que ça vous plaise en fait.
Ah mais bien sûr qu'on ne demande pas si ça me plaît. Ouais. Mais je dis que c'est la situation actuelle n'a rien de choquant. C'est un rapport de force politique.
Je vous rejoins que...
Du coup, j'interroge le rôle de l'État qui est... Alors, je sais que chez beaucoup de gens à droite, et notamment Radio Courtoisie, on n'aime pas beaucoup l'État, et tout à l'heure, on parlera de certains travers de l'État. Mais moi, qui ai quand même pas forcément une confiance absolue dans cet État... dans l'état actuel des choses, mais qui n'est rien contre le principe d'un état fort, je me dis que c'est pas non plus incongru que l'état, dans une société qui est complètement déliquescente, où il y a plus de... le vivre ensemble n'existe plus, pour prendre un terme à la mode, que l'état tranche vivement.
Ah mais je vous rassure Adrien, pardonnez-moi François, allez-y. Je pense que 2027 va être, la route vers 2027 va être une route vers un État fort, un État restauré, mais un État antifascisme d'opérette, parce que la montée du pouvoir fasciste, j'ai bien du mal à voir où elle se situe, et c'est d'ailleurs là où nos petits amis du Rassemblement National ont bien tort de ne pas soutenir ce mouvement, même timidement, même sur une question de principe. Parce que demain, les mouvements qui seront interdits et les manifestations qui seront interdites, ce seront les leurs, au nom des mêmes principes, et ce sera également le cas pour certains meetings de M. Mélenchon. On l'a déjà vu. Et en fait, tout ce piège, toute cette diabolisation, là, effectivement, il y a peut-être il est difficile de trouver plus de gens plus diabolisables que ceux du comité du 9 mai. Sauf que c'est en s'appuyant sur ces exemples, ceux du comité du 9 mai, sur d'autres groupes dans la société, ça peut être également ce qu'on appelle les séparatistes islamistes, ou ce genre de choses, toujours sur ce... Mais je le sais, nous y venons. Mais c'est toujours en s'appuyant sur des groupes prétendument radicaux, prétendument X ou Y, qu'on appuie une loi générale. Et en fait, toutes ces grandes personnes qui nous expliquent toujours la République, les valeurs, les principes, ce sont les mêmes qui interdisent ce rassemblement, cet hommage du 9 mai, et qui l'interdiront demain, pour les mêmes motifs, des réunions, là qui seront des réunions politiques, qui seront des concerts, qui seront des mouvements festifs, ou autres, pour les mêmes principes.
François Charmeau, je voyais faire des grands signes.
Non, mais peut-être simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, parce que moi aussi, j'aime l'État fort. C'est pas le problème, et je pense qu'on est beaucoup à l'aimer, mais la monarchie absolue, ça a fonctionné parce qu'elle était de droit divin. si je peux me permettre, l'histoire le montre, tous les États forts, y compris forts idéologisés, qu'on peut par ailleurs apprécier ou ne pas apprécier, c'est pas le problème, c'est pas le débat, c'est pas le thème, comme a pu le dire... quelqu'un à qui on passe un clin d'œil s'il se reconnaît. Blague à part, un État fort est fort parce qu'il est adossé à un ordre moral et que, à travers ça, En fait, l'espèce de contrat social qui lie les citoyens à l'État se déporte sur une finalité. C'est-à-dire que la monarchie absolue, sur le papier en tout cas, de droit divin, ça fonctionne parce qu'il y a cette idée, chez les catholiques, qu'on est en route, un petit peu en chemin, qu'on tend en tout cas vers la sainteté, et que donc la force de l'État, du pouvoir royal, va nous permettre d'aller vers ça. Sauf que là, il y a un déséquilibre complet. On nous propose un État fort, avec rien, avec...
les valeurs de la République, est-ce que vous faites partie de l'arc républicain ou pas? Mais je ne dis pas que c'est ma
dont tout
je dis
pas que c'est ma position. Qu'elles n'existent pas et qu'elles ne sont matériellement pas réalisables. Donc on nous vend une utopie, c'est comme le communisme. On nous vend quelque chose qui est physiquement, humainement, naturellement impossible, et tout le monde le sait, y compris les communistes, et on demande de la force en retour. Donc il y a un moment où ça ne peut pas fonctionner d'une manière ou d'une autre.
L'État voudrait être respecté, mais ne le pouvant pas, il se met fort et plus fort. En fait, il veut gagner le respect par la force. Et c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver.
Oui, bah, tout à fait. Et alors, nous recevons un message d'auditeur. Nous saluons. Nous sommes très heureux de ce message. Et j'adresse à tous les auditeurs de Radio Courtoisie un appel qu'ils n'hésitent vraiment pas à réagir au cours de notre émission. Nous aimons beaucoup les messages d'auditeurs. Bonjour, je fais remarquer que c'est toujours la manifestation d'ultra-gauche qui est à l'origine des violences. Les manifestants qui rendent hommage à Sébastien ne veulent rien d'autre qu'une manifestation pacifique, bien à vous.
Et on n'est pas dans un stade de foot. Ces gens-là ne sont pas obligés d'aller au même endroit. On pourrait en mettre dans le 14e et dans le 11e et on n'en parlerait plus.
Oui, tout à fait. Mais non, ils font exprès de chercher
Je pense que notre auditeur conclut très bien la séquence sur ce sujet, en fait. Les violences sont frais de l'extrême gauche, soutenues par une presse de gauche, une justice de gauche. Au final, l'extrême gauche se fait une farandole autour du peuple français et des nationalistes et rigole bien de nous tous.
Je croyais que la droite avait gagné la bataille des idées et le combat culturel, mais non, c'est une petite pique à certains amis. Oui, alors, vous dites que la gauche a gagné, mais moi j'ai plutôt l'impression que, en tout cas, c'est l'État là, dans les faits qui a gagné. Et on voit que l'État veut encore plus affirmer ses prérogatives en matière d'ordre, notamment. Donc Laurent Nunez a un projet de loi contre l'entrisme et le séparatisme, et de son côté Bruno Retailleau, qu'on ne peut pas accuser d'être à gauche, alors on aime ou on n'aime pas le personnage, mais c'est quand même quelqu'un qui est sans doute assez ontologiquement de droite. Je vois un sourire narquois de la part de François Charmeau, qui lui a fait une proposition de loi qu'il a défendue au Sénat sur l'entrisme, et lui l'entrisme islamiste, donc et l'entrisme islamique. Donc, voilà, on peut se dire que ça soit des gens plutôt marqués à gauche comme Monsieur Nunez, ou des gens plutôt marqués à droite comme Monsieur Retailleau, tout le monde a cœur d'affirmer encore cet État. Qu'est-ce que ça vous évoque, François Charmeau?
Alors effectivement, vous faites allusion aux différentes propositions, projets de loi de Bruno Retailleau, de Laurent Nunez, mais on cherche dans les médias dernièrement à les opposer, voire à les distinguer, où Bruno Retailleau serait le pendant un peu droitier de la République, et Laurent Nunez, finalement, ce serait quasiment effectivement l'extrême gauche. Évidemment, ce sont les deux faces d'une même pièce, dont l'arrêt est constitué largement par Gérald Darmanin, au passage, qui a été le grand instigateur, d'ailleurs, des dissolutions en tout genre, qui ont semé la pagaille profondément dans le paysage politique français, mais bon, c'est pas le sujet. Plus largement, l'État cherche à se renforcer, à se défendre, et c'est un réflexe, j'allais dire, quasi pavlovien de cette droite républicaine qui consiste à dire il faut donner plus de force à l'État, parce que grâce à ça, on va forcer tout le monde à se tenir mieux, on va assimiler tous les nouveaux entrants, et en interdisant les frères musulmans, ça va mieux se passer. Évidemment, c'est faux, et comme d'habitude, évidemment, ces lois portées sur un certain nombre de communautés, eh bien, seront élargies à tout le monde, et donc on va commencer avec des contrôles renforcés sur les écoles coraniques, par exemple, et demain, évidemment, ce seront les écoles hors contrat catholiques qui seront encore plus contrôlées qu'elles ne le sont déjà. Donc on voit bien que l'État a peut-être le sentiment, ou en tout cas l'État le personnel politique a sans doute le sentiment et la capacité à prendre le pouls de la société et comprend que les choses se polarisent, les choses se tendent, et donc chacun se raccroche à ce mirage de effectivement républicain du grand vivre ensemble et de la société partagée en essayant de finalement de forcer tout le monde à rentrer, sauf que on peut difficilement faire rentrer des ronds dans des carrés, et qu'à un moment ou à un autre, ça ne fonctionnera pas. Donc je suis convaincu que ces lois qui sont finalement quasiment contre nature, qui traitent en permanence le symptôme sans jamais s'attaquer finalement à la réelle maladie, sans jamais remonter à la racine du mal, eh bien ne feront que des coups d'épée dans l'eau. Évidemment, ça va pourrir le quotidien d'un certain nombre de personnes, dont on fait peut-être partie au demeurant. Néanmoins, je ne suis pas sûr que l'histoire s'en souvienne.
Jean-Hernis, Jérôme...
Je vais citer Bossuet, je cite je crois à chaque émission, mais « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils enchérissent les causes ». Alors je crois que je cite cette phrase une émission sur deux, c'est pas de la fainéantise, mais c'est, je pense, un petit peu un bon résumé, un bon condensé de notre politique actuelle, et c'est ce que disait très justement François dans la fin de son propos, même si le début était juste également, mais je pense que c'est clairement là où il faut appuyer. C'est qu'en fait, on a des hommes politiques qui s'efforcent de vouloir faire cohabiter ensemble des gens qui ne veulent plus et qui n'arrivent plus à cohabiter ensemble. Et de ce fait, on en arrive à des situations qui sont ubuesques. Dans ces textes, il y a quand même des choses où on peut nous dire, on prévoit par exemple la séquestration financière des associations ou des personnes. C'est quelque chose qui existe déjà. On a Radio Courtoisie, on a déjà parlé notamment dans la matinale, on a nos confrères de Frontières qui en ont parlé, Élément en a parlé également dans ses colonnes, sur les, comment dire, sur ces groupes politiques militants qui sont, dont on saisit les comptes des associations, des personnes, certaines personnes qui ne peuvent même plus avoir de comptes, qui sont tout le temps en train de changer. Donc on peut penser, ça avait commencé en son temps par Égalité et Réconciliation, ce qui avait fait rire tout le monde, disant oui mais Égalité et Réconciliation, vu ce qu'ils disent sur l'État israélien, c'est pas étonnant qu'on s'attaque à eux. Après ça a continué avec tout un tas d'associations et de groupuscules, et maintenant ça peut aller avec des gens qui sont même vraiment qui ne sont pas forcément considérés comme radicaux, mais simplement ils ont été vus à une manifestation où ils ont fait un don à telle association. De ce fait, la banque s'autorise le droit de bloquer le don en disant « Vous êtes sûr que vous voulez faire le don à cette association quand même ?» Et on parle à des associations qui peuvent être des associations caritatives telles nos amis des SOS Chrétiens d'Orient. Donc on est sur des logiques de l'État de se défendre, de défendre l'État français et la République, et c'est toujours en fait ce distinguo entre la République et la France. On a des hommes politiques qui veulent sauver la République, je pense qu'autour de cette table, nous voulons sauver la France. La France et les Français, et on a des hommes politiques qui veulent sauver la République, et peu importe ce qu'elle contient, on sauve un concept. Nous, on veut sauver la terre de nos ancêtres, là où nos ancêtres sont morts, là où leur sang a coulé pendant des batailles, des guerres, certaines tragiques, certaines épiques aujourd'hui, mais toujours est-il que cette terre, on veut la laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, mais nos hommes politiques, eux, ils pensent pas à ça. Eux, ils pensent à des droits, à une constitution, à une république. Ouais.
Le texte de Laurent Nunez est très clair, il l'a présenté au grand public à travers un grand entretien qu'il a donné au Monde la semaine dernière. C'est « Quelles sont les principales mesures de votre projet de loi ?» Notre projet de loi, je cite, « aura vocation à s'appliquer à toutes les structures ou individus séparatistes ou ultra-violents, comme les groupes d'ultra-droite par exemple. » Juste avant, dans l'entretien, il parlait énormément des islamistes, mais bon. Là, il le cite quand même, comme les groupes d'ultra-droite, par exemple. Nous visons tous les groupuscules qui provoquent à la discrimination, à la haine et à la violence, mais aussi toutes les structures qui incitent à des agissements violents et ont pour vocation d'attenter à la République. Voilà, donc le mot est lâché. Notre texte prévoit un huitième motif de dissolution de structures associatives pour entrisme. Seront concernées les structures qui s'affranchissent des règles communes légalement établies pour faire prévaloir des principes religieux ou autres incompatibles avec les valeurs et les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil d'État se penche sur ce texte en ce moment. Donc là, ça pourrait concerner clairement toutes les écoles hors contrat, qu'elles soient catholiques, musulmanes, juives ou de religion athée, je sais pas.
Oui, non, mais tout est dit, ou même les écologistes, les mouvements écologistes sérieux sont régulièrement attaqués. On peut en penser ce qu'on veut, mais on a des, parfois des mouvements écologistes qui disent des choses assez intéressantes. On n'est pas forcément obligé de souscrire à tout, loin de là même, mais tous les groupes qui posent question sur les faillances et les défaillances, sur les failles, pardon, et les défaillances de l'État, tous ces groupes-là sont dans le viseur de l'État, en fait. Si vous constatez que l'État a des failles et vous dénoncez ces failles, vous devenez de facto un ennemi de l'État. C'est quand même assez original que notre ministre choisisse un média comme Le Monde. C'est quand même, ça veut tout dire, Le Monde, on parle au monde, on ne parle plus aux Français. Bon, après, je sais qu'on n'a pas de, de quotidien qui s'appelle
La France.
La France, mais non, mais c'est assez drôle. Ça,
il aurait pu parler aux Parisiens. Enfin,
aujourd'hui en France, par exemple.
Aujourd'hui en France.
Non, non, mais je suis un peu de mauvais esprit, mais c'est quand même très inquiétant. C'est depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est le combientième de projet sur le séparatisme. C'est un mot qui n'existait pas dans le vocabulaire courant politique il y a 10 ans. On nous parle de séparatisme depuis 10-15 ans.
Oh, même moi,
tous les 3, 4, 5 mois, ça revient, c'est un serpent de mer. Et à chaque fois avec des textes coercitifs. Et on a toujours ce mot où on nous dit « Oui, mais si t'as rien fait de mal, toi, tu crains rien. » Mais l'étau se resserre de plus en plus. Et on l'a vu, l'étau s'est resserré notamment pendant l'épisode du Covid-19. J'ai pas envie d'en revenir là-dessus, mais toujours est-il, on a vu que l'État était capable, là, de mettre un État fort en place, où on a même demandé aux gens de remplir une propre déclaration pour aller acheter son papier toilette, rappelons-en nous. Et avec tout un tas d'interdictions délirantes. Et aujourd'hui, ces interdictions s'appliquent à des groupes qui sont des groupes marginaux, des groupes politiques, les amateurs de football, les écolos.
La sortie du Covid ne fait pas un état fort. C'était une impression d'état fort, mais on va pas relancer tout un débat sur le Covid. Mais,
non, mais c'était une parenthèse forte.
Est-ce qu'on avait l'impression d'avoir faire un état fort quand on avait coché une case? Non, on...
Il y a une parenthèse quand même.
Non, mais après, moi, je pense que ce qui est assez effarant dans ce type de projet de loi, vous disiez bien, Jean, c'est que, en fait, il y a déjà un arsenal qui existe et on se sent obligé, pour des raisons de communication, etc., d'en faire toujours plus. Et que c'est des textes qui sont quand même, malgré tout, assez fourre-tout. En fait, moi, je pense que le problème, c'est pas tant dire il va autant taper sur les musulmans que sur l'extrême droite, que sur l'extrême gauche ou que sur un tel. C'est qu'en fait, n'importe quoi peut être condamné, et dans ce texte, autant il parle de séparatisme et d'entrisme islamique, mais plus tard il dit que le problème c'est aussi les publications dangereuses qui peuvent inciter à la violence sur, mais en fait c'est on réprime internet, on réprime les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de projets de la Macronie sur tout ce qui touche à internet et aux réseaux sociaux. Moi je pense que c'est quand même
la loi Avia.
Oui, la loi Avia, mais qui...
Il y a, de manière générale, chez les macronistes, et ça depuis 2017, voire même avant, il y a une forme de mépris de classe qui est bien supérieure en réalité à un mépris de classe, qui est un mépris quasiment du genre humain qui existe chez eux, en effet, qui consiste à considérer les autres, les gens normaux, les lambdas, comme des sous-citoyens, et pourquoi pas des sous-hommes. Et je renvoie les auditeurs à la lecture d'Oswald Spengler, l'homme et la technique, donc c'est un siècle déjà, mais qui parle déjà d'une humanité à deux vitesses avec ce que lui appelle les carnivores et les herbivores. Mais de fait, en fait, c'est exactement quelque part ce que la Macronie, ça correspond parfaitement au comportement, en tout cas politique, de la Macronie, et déclaration d'Emmanuel Macron du début de mandat. Du premier mandat, par exemple, à la gare Montparnasse, ceux qui font le monde et ceux qui sont rien, etc. Enfin bon, tout ça va dans le même sens, qui est le sens de mépriser les gens, le peuple, les gens normaux, et de les considérer comme étant une espèce de masse informe à bouger, à transposer. Et le traitement des gilets jaunes n'en dit pas autre chose. Là où peut-être on peut s'attarder sur ce genre de projet de loi, c'est qu'ils sont en incohérence complète avec ce qu'est aussi l'État français avec ses moyens. On parle d'un État qui est surendetté, qui est incapable d'assurer le moindre service public, y compris dans la sécurité. En fait, la seule chose qui tient encore un petit peu la sécurité dans ce pays, c'est rien d'autre que la communication. Et évidemment, je dis tout de suite, j'appelle personne à commettre d'actes illégaux, évidemment, mais il n'empêche que la seule chose qui tient encore un petit peu les gens, c'est la peur. Les gens, j'entends les Français, évidemment, la peur un petit peu du gendarme. Et le Covid-19, c'est rien d'autre que ça. Le premier confinement, tout le monde a eu peur réellement de la maladie. Donc pendant 3 mois, en effet, personne n'est sorti. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière, il y en a eu 3 ou 4 encore des confinements. Et tout le monde s'en fichait, tout le monde sortait parce que chacun avait compris que la maladie était bien moins dangereuse. Donc le moment où sociétalement, on va atteindre ce stade où chacun aura compris que la maladie est moins dangereuse et que la piqûre, finalement, de rappel que l'État est en mesure de donner, est finalement assez faible à l'échelle d'un pays, à l'échelle des masses, je pense qu'il y a souci à se faire du côté de Matignon et de l'Élysée, quoi.
Oui, et alors, là, j'ai pas beaucoup parlé du texte du ministre Nunez, mais je voulais quand même rappeler celui de Bruno Retailleau, qui a vraiment été présenté, comme vous le disiez, par la presse, comme quelque chose qui visait essentiellement l'entrisme islamique, etc. On découvre quand même dans l'article 6 que ça permettrait au ministre de l'économie, au ministre de l'intérieur, de décider de gel de fonds de ressources économiques, hein, de ce qui est aussi le cas du texte de Nunez, à des entités qui soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence et qui présente une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur. Fermez le banc.
Bon. À vos souhaits.
Vous pouvez respirer.
Non mais là, vous voyez, tout est dit. Dès qu'on a le mot discrimination, agir, c'est discriminer. Et alors, le mot discriminer est devenu
diabolique,
un repoussoir, c'est encore... Mais en fait, discriminer, c'est choisir. Et dans la vie tous les jours, on ne fait que des choix discriminants. Vous choisissez telle boulangerie au lieu de telle boulangerie, vous avez discriminé un boulanger parce que vous estimez que celui-ci fait du meilleur pain que celui-ci ou que son pain est moins cher. Toute notre vie, nous passons notre temps qu'à discriminer.
Tant qu'il n'est pas...
Jérôme.
Tant qu'il n'est pas un boulanger LGBT, vous pouvez le discriminer.
Et non, mais c'est justement là où ça devient dangereux. C'est qu'en fait, qui décide que demain, le choix que vous faisiez depuis des années, vous êtes libre de faire 5 minutes de plus en rentrant chez vous ou 20 minutes de voiture en rentrant chez vous pour aller dans tel ou tel commerce parce que vous estimez que vous avez de meilleurs rapports avec les vendeurs. C'est une discrimination. Vous avez décidé d'aller dans telle entreprise, vous avez décidé de recourir à telle personne, vous avez décidé de supporter telle équipe de sport. Tout ça, toute la vie est faite de choix où on discrimine les autres. Eh bien, demain, on pourrait vous reprocher ces choix et vous prêter des intentions qui ne sont même pas les vôtres. En disant, ah mais si tu ne vas pas là...
C'est parce qu'il a une calvitie.
C'est parce que X ou Y, voilà.
Parce que tu interviens sur Radio Courtoisie.
Non mais là, on est sur une pente qui est vraiment très dangereuse en fait. C'est qu'en fait, ça existe déjà. On sait que maintenant, chaque année, on ajoute des choses dans le package, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais bien dans tous ces mots, la discrimination s'agrandit chaque année. Donc on a la glottophobie maintenant, donc se moquer des accents, ce genre de choses. Il y a plein de choses. Tous les ans, on nous rajoute des motifs discriminatoires. Donc on a... alors il y a des choses qui sont évidemment, bien sûr, discriminer les gens en raison d'un handicap, bien sûr que c'est quelque chose, pardonnez-moi le terme, qui est dégueulasse. Mais il y a aussi des métiers où on ne peut pas en embaucher. Mais dorénavant, la frontière est ténue. C'est-à-dire que tu ne veux pas ou tu ne peux vraiment pas. Et tout ça, en fait, c'est un terrain qui est très, très, très glissant, très dangereux. Ça va encombrer les tribunaux, encore une fois. Et qui va perdre ? Mais je vous le dis, ce sont les patriotes, ce sont les nationalistes et les gens qui sont dans l'œil du cyclone. Ça pourrait même être LFI et ses alliés quand ils sont dans l'œil du cyclone. Pourquoi ? Parce qu'on a des associations qui prennent des subventions, de grandes subventions, qui ont des bataillons d'avocats. On parlait tout à l'heure autour du comité du 9 mai que c'était également un combat juridique et financier. Mais on a des associations et des avocats qui ne vivent que de ça, à dire ben là, on va porter plainte contre telle entreprise, contre telle structure, et qui vont encombrer les tribunaux. Et si même... au bout du bout, vous n'êtes pas condamné, vous aurez perdu plusieurs mois, des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros pour certaines affaires.
En procédure.
En procédure, en avocat, en frais d'avocat, frais de justice, des choses comme ça. pour des choses où, en fait, on va créer une nouvelle terreur. Je veux dire, la terreur, c'est quelque chose qui est quand même bien dans l'ADN de la République. Ben maintenant, la terreur, c'est aussi une terreur judiciaire. Et tous ces textes de loi-là, ils s'inscrivent là-dedans. Si on ne veut plus de problèmes avec l'islam en France, on ne fait plus rentrer de gens qui portent cette religion. Qu'il y ait des Français de religion musulmane, on le sait, c'est un fait, mais on n'est pas obligé d'importer de nouvelles personnes avec cette religion.
Mais c'est dangereux ce que vous dites. Hein.
Mais en
François Charbot.
Plus généralement, je reviens toujours, il y a vraiment la théorie, et en matière législative, c'est particulièrement vrai, il y a la théorie, puis il y a sa faisabilité, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'État prend des mesures, il y en a eu beaucoup ces dernières années, parce qu'on parle de Macron, mais on pourrait remonter encore au quinquennat de François Hollande, avec la loi Urvoas, c'est pas pris la loi Urvoas 2, voilà, c'était censé annihiler complètement toute forme de problématique liée notamment au salafisme. Bon, en fait, l'État français qui prend des mesures contre des groupuscules qui ont prouvé physiquement, en tuant plus de 200 personnes en novembre 2015, par exemple, qui ont prouvé physiquement qu'elles étaient capables d'être hostiles et de nuire au pays, ben on en est incapable. Donc la comparaison, pour faire une comparaison d'actualité, c'est quand l'État israélien et les Américains sont supposés avoir détruit la capacité de lancement de missiles des Iraniens, et qu'on découvre qu'en fin de compte, ils ont simplement bouché les trous de lancement. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes conséquences. Donc voilà, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on nous vend en permanence l'État fort, qui va nous protéger, qui va nous redresser, qui suite à cet attentat, plus jamais ça, etc. Et de fait, ce qui se passe, et vous le disiez très bien, Jarnis, l'étau se resserre, le citoyen normal qui a pour ambition de vivre à peu près en accord avec les lois de son pays, se sent de plus en plus enfermé dans un carcan législatif, tandis que ceux qui ont choisi d'en avoir rien à fiche des lois, de passer au-dessus, et bien finalement se portent presque mieux que ceux qui cherchent à les respecter. Donc le problème pour l'État se posera au moment où le point de bascule de masse entre ces deux catégories s'inversera.
De quand datent les premières polémiques sur le voile à Creil? 1980, je crois. On est en train de parler de choses qu'entre 40 et 50 ans, avec tous les gouvernements qui sont censés s'y attaquer. Bon, on a bien compris que nos gouvernements ne pouvaient pas régler tous nos problèmes. Lionel Jospin nous avait averti à ce sujet, mais visiblement, arrêtez de vouloir régler les situations, en fait. Appliquez les lois déjà existantes, et voyons, aucune loi qui est votée n'est appliquée dans ce pays. On refait une loi, on refait une loi, on refait une loi.
Les journalistes du Monde qui ont interrogé Nunez ont pourtant posé la question. Était-il vraiment nécessaire de légiférer à nouveau sur ce sujet? Et alors la réponse, nous avions vraiment besoin d'un nouveau texte. Nous nous sommes rendus compte en appliquant la loi de 2021, c'était pas il y a très longtemps, hein, confortant les principes et les valeurs de la République, qu'il nous manquait un certain nombre d'outils pour lutter encore plus efficacement contre le séparatisme, ainsi qu'un volet sur l'entrisme, sur le gel des avoirs par exemple, une mesure administrative qu'il n'est possible de prendre aujourd'hui qu'au titre du narcotrafic ou du terrorisme. Et on peut toujours trouver des nouveaux besoins.
Non mais déjà, bon, qu'on puisse bloquer les avoirs des narcotrafiquants et des terroristes, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est-à-dire que demain, toute structure...
Toute structure qui est considérée comme pas dans la droite ligne des valeurs de la République peut être considérée comme terroriste, donc...
Voilà.
Et donc le risque, si on se place, c'est là qu'on s'aperçoit que ces lois sont profondément inefficaces et ne cherchent d'ailleurs pas à l'être, puisque si vraiment on veut abolir quelque chose, on le rend pas à souterrain. C'est geler les avoirs des narcotrafiquants. D'accord, on gèle peut-être les 10% qui étaient blanchis, immergés. Personne ne sait ce qu'il y a en valise dans tel ou tel pays du Maghreb pour la sortie de prison. Ben c'est demain, la conséquence sera sans doute la même pour les milieux associatifs. En effet, ils auront peut-être moins de dons sur leur compte bancaire et les choses se feront, pour employer un anglicisme, off the market. Comme on peut dire chez Macroniste, certainement. Pardon. Non mais blague à part, plus sérieusement, ces lois ne sont ni efficaces, ni d'ailleurs ne recherchent l'efficacité. C'est des lois de communication. Alors, il faut les prendre au sérieux, il faut les combattre, évidemment, il faut s'y opposer. Néanmoins, c'est rien d'autre que de la communication. À un an des présidentielles, par Laurent Nunez, représentant, s'il en est un, du bloc central macroniste, qui cherche à démontrer que non, il n'y a pas que le Rassemblement National qui parle de sécurité, il n'y a pas que Zemmour qui parle effectivement des problèmes d'entrisme, comme on dit, ou de ou de séparatisme, qui sont au passage deux mots sur lesquels on pourrait faire une mission entière, puisqu'ils ne veulent strictement rien dire, surtout d'ailleurs en ce qui concerne les populations visées.
Merci François Charbot, nous allons passer à un petit bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Dans le studio de Radio Courtoisie, nous parlions de l'État fort, de l'État répressif, de l'État qui veut du mal aux Français, de l'État qui fait de la communication et qui n'agit pas. Et pourtant, on pourrait dire aussi l'État est doux, l'État est gentil, l'État prend soin de nous, l'État nous veut du bien. Il n'y a qu'à voir le nombre d'injonctions, de publicités qui investissent les écrans, les panneaux d'affichage. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. L'État veut du bien aux Français. On pourrait quand même se dire que tout n'est pas noir. On n'est pas dans une société qui est complètement triste. Il y a sans doute des manquements de l'État dans sa capacité à faire régner l'ordre public, et du coup il essaye tant bien que mal de muscler son appareil répressif, mais à côté l'État est plutôt sympathique. Jean Hernis, vous avez travaillé le sujet.
Alors l'État est sympathique avec les boîtes de communication qu'elle paie grassement pour nous vendre des slogans à longueur d'antenne radio, télévisée, dans les journaux, dans les trains, dans les gares, et plus généralement dans tous les espaces publics, les écoles, les mairies et autres. Alors, j'ai un petit florilège, alors je prie de m'excuser auprès des auditeurs, mais je vais pas tous les citer, je sais qu'il y a des auditeurs chez eux qui vont dire « mais il a pas parlé de celui-là ». Donc il y en a tellement qu'on en oublie forcément. Donc on a bien sûr tous les slogans autour de l'alcool, comme quoi l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que les femmes enceintes ne doivent pas boire. On a également d'autres slogans qui sont un peu hérités des dernières campagnes du Covid. Donc tousser dans son coude, je protège les autres. Alors tous ceux sur l'alimentation, vous en avez cité tout à l'heure, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour pour votre santé, pratiquer une activité physique régulière. Fumez-tu, bien sûr. On peut penser à d'autres slogans qui sont là un peu dérangeants, qui m'interrogent personnellement. Lorsque dans le train on nous dit de veiller à nos effets personnels, comme quoi des pickpockets peuvent opérer à bord des trains et des stations. Donc là, c'est un peu une inversion de la charge. C'est à vous d'être prudent vis-à-vis des pickpockets.
Oui, parce qu'on dit il ne faut pas tenter les pickpockets.
Voilà. Imaginons le même slogan à l'encontre des violeurs. Ne tentez pas les violeurs, tout le monde serait scandalisé, et à juste titre. Là, c'est quand même vous qui portez la responsabilité du vol que vous allez subir. Ce n'est pas le voleur qui vous vole qui en est responsable, c'est vous qui le tentez après tout. On a d'autres slogans qu'on a tendance à oublier, surtout avec le soleil qui est de retour, mais régler le chauffage à 19 degrés, donc je baisse, j'éteins, je décale. Alors moi, la première fois que j'entends ça, j'ai dit, mais
de quoi
qu'est-ce que ça veut dire, je baisse, j'éteins, je décale?
Bah, oui, je pense que vous pouvez dire à certains auditeurs...
J'avais pourtant cuit mon gigot correctement, je comprends pas.
Donc moi, je me suis baissé dans mon salon, j'ai décalé sur mon canapé, et j'ai dit, j'éteins quoi? Alors j'ai éteint ma télévision, puis après, j'ai moins entendu de sornettes, et c'était
mieux.
Une très bonne nouvelle.
Ça allait mieux ensuite, ouais.
C'était en fait certainement ce qu'il fallait faire. Aussi ironique, donc toutes les publicités pour les voitures aujourd'hui nous ordonnent même de privilégier le covoiturage. Pourquoi pas en voiture?
Mais là, c'est presque plutôt... plus l'État qui nous protège, et l'État va aller imposer aux marques d'avoir ces messages.
C'est ça. Et
oui, parce que même d'autres slogans qui viennent en tête, parce que vous avez dit que les auditeurs allaient forcément dire il a oublié celle-ci. Alors je fais que l'auditeur de base, enfin, j'ai beaucoup de respect pour les auditeurs de Radio Courtoisie, mais attention à la marche en descendant du train. C'est pas l'État qui dit ça, c'est...
Les antibiotiques, c'est pas automatique.
C'est l'air assez
cher, Jean-Hervis.
Non mais, et vous voyez, juste pour finir sur l'automobile, parce que ce qui est très drôle, c'est que donc là, on a quelqu'un qui nous vend une voiture, et qui nous dit, bon, il faut privilégier le covoiturage, on peut le comprendre, après tout, pourquoi pas, mais de prendre le train ou le transport en commun. C'est-à-dire, je vous vends une voiture, mais ne l'utilisez pas. Non mais c'est... Et en fait, tout ça, ça procède d'un État nounou qui est censé nous protéger, mais nous protéger même de nous-mêmes. Je ne sais pas si on a un alcoolique qui a décidé d'arrêter de boire lorsqu'il a entendu « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». malheureusement.
Oui, mais peut-être que un alcoolique a été aidé par une... Je fais l'avocat du diable. Un alcoolique a été aidé par une personne qui avait entendu cette publicité. Nous sommes sur Radio, tu te dis, il faut parler français. Non, je suis pas certain que ça soit très utile. Après, est-ce qu'on peut blâmer c'est la question que je pose. Est-ce qu'on peut blâmer l'État de dire éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré?
Bien sûr que oui.
Bah, non, en fait... je pose la question. C'est bon. C'est vous. Vous êtes mes invités. Je vous pose des questions. Vous me répondez. Pour François Charmont, vous êtes quelqu'un de très tranché.
Non, en plus, j'essaie de l'être le moins possible. Mais sur ce genre de questions, je crois que il y a pas 40 réponses possibles. On vient de parler à l'instant des grandes idées, des grandes valeurs républicaines, etc. Le principe, c'est quand même de dire on s'est libéré grâce à la Révolution du joug de l'Ancien Régime. Ça y est, les citoyens naissent libres et égaux en droit. C'est marqué dans la Déclaration des droits de l'homme. On a maintenant une constitution, il y a une loi suprême et tout le monde a le droit de vote. C'est le suffrage universel direct. Donc si j'ai le droit de vote, je suis responsable. Il y a une majorité, il y a un moment où je suis capable d'élire quelqu'un, donc de participer avec avec la souveraineté représentative. Je suis capable de participer finalement à la direction de mon propre pays. Donc si c'est le cas, je devrais normalement être capable aussi de participer à la gestion de mon microbiote, quoi. Et donc je suis pas convaincu qu'il faille comme ça déresponsabiliser en permanence le citoyen. Et ça en dit long, encore une fois, de la posture étatique envers ses propres citoyens.
Que l'État et quelques campagnes de communication n'est pas totalement blâmable. Je pense par exemple à la sécurité routière. Il y a quelques années, je suis assez âgé. Il y a une trentaine d'années, c'est gentil. Les publicités sur la sécurité routière étaient assez bébêtes, infantilisantes, et ils ont changé de ton en montrant les vraies conséquences d'un accident. Un accident, c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours. On pensait toujours, un autre mot, ça n'arrive qu'aux autres.
Oui.
Qui était un autre slogan. Que l'État ait quelques communications sur des domaines de prévention du risque, c'est les choses qu'on oublie. Mais là, c'était manger suivre. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur?
Mais on prend la valise. C'est pas manger trop salé, trop sucré, trop gras.
Surtout, c'est écrit
et légumes par jour.
Sur les panneaux de chaque fast-food auquel vous allez.
Voilà, l'application, par exemple, du Nutri-Score. Donc, on est en train de demander aux industriels, de façon volontaire pour l'instant, d'apposer sur des produits multi-transformés qui viennent, donc vous achetez un cordon bleu avec, donc vous allez avoir de la viande de volaille, une part française, donc peut-être 51%, 48% d'un autre pays, mais pour dire qu'il est quand même fait en France, bon, on est sur des choses avec de multiples additifs.
Mais un cordon bleu, c'est forcément très mal noté.
Non, mais vous faites un cordon bleu maison, bah là, on est entre gastronomes, parce qu'on a un petit peu, mais si, on peut en parler, mais si vous le faites vous-même, je ne doute pas que. C'est cinq ingrédients. Hein. C'est une escalope, une tranche de jambon, de l'emmental.
Alors la chapelure à l'anglaise ou à la française, on l'a dit.
À l'anglaise.
À l'anglaise. Bon.
Vous écoutez le livre journal de la gastronomie.
Non, mais on peut en rigoler, mais on peut même mettre une chapelure japonaise, la panko, c'est un peu plus croustillant. Mais
pas mal.
On va pas rentrer dans un débat gastronomique. Mais le fait qu'on demande aux industriels de mettre ce Nutri-Score, en plus, qui ne veut rien dire, parce que vous vous retrouvez avec l'huile d'olive, par exemple, sera forcément classée E, parce que c'est l'huile, donc forcément, une huile, c'est forcément mauvais pour la santé. Même un bon beurre va être mal classé, alors que on a besoin de produits gras. Je veux dire, le gras, c'est quelque chose qui est utile pour notre mémoire, notre cerveau, nos cellules. Alors, et on ne peut pas mettre sur le même niveau de mauvaises frites mangées tous les jours et une bonne huile d'olive, alors que les deux seront mal notés dans un Nutri-Score.
Plus largement, en fait, c'est la grande falaise de la santé publique. C'est-à-dire que oui, évidemment que l'État doit se soucier, c'est normal et ça a toujours été comme ça à travers l'histoire, à travers tous les régimes politiques, l'État doit se soucier un minimum de la santé et de la sécurité publique pour éviter qu'il y ait une trop grosse mortalité infantile, par exemple, pour prolonger l'espérance de vie, pour permettre à chacun de vivre effectivement dans des rues propres. Sauf que le grand paradoxe, c'est que tout se dégrade. Mais c'est très important de nous rappeler de ne pas manger gras, etc. Donc on voit bien qu'il y a, encore une fois, une décorrélation complète entre les messages de l'État qui vont sur du détail maximal, vraiment, de nous rappeler concrètement qu'est-ce qu'il faut manger, attention, maintenant il y a une note pour l'étanchéité de votre maison, il y a une note pour le Nutri-Score de vos biscottes, demain il y aura une note peut-être pour la qualité de l'eau que vous buvez, si elle n'existe pas déjà, c'est possible. Bref, on va dans l'hyper détail, mais voilà, quand on habite Paris, c'est normal de croiser un rat de 35 ou 40 cm sans être, marseillais, dans un square pour enfants. Ça, c'est normal. Voilà. Et là, j'ai pas vu de campagne de pub.
Si vous le confondez avec votre enfant, c'est qu'il lui a piqué sa casquette. C'est là, c'est pas sympa.
Ou alors, non. Bref. Alors, plus sérieusement, on voit bien que, encore une fois, les messages de l'État sont complètement décalés et en décalage complet avec la réalité. C'est-à-dire qu'on nous vend la santé, le principe de précaution, etc. De fait, si vous avez aux urgences, bon courage. Il faut vraiment avoir un bon motif et une grosse envie d'y aller. Sinon, vous allez perdre votre journée pour rien. Bon, et c'est toujours la même chose. L'hôpital public est en
bombe. C'est mieux que rien. Je suis désolé, mais moi, je défends le modèle social. Enfin, les urgences, ok, elles sont saturées, c'est n'importe quoi, mais vous cassez la jambe aux États-Unis.
Je serais ravi que nos urgences et que notre modèle social fonctionne correctement. Je ne demande que ça d'ailleurs. Et peut-être qu'en allouant les budgets pour
de toutes ces publicités stupides à l'hôpital public. D'accabler le personnel. Hein.
Pas du tout. Peut-être qu'en allouant le budget de toutes ces publicités stupides à l'hôpital public, on s'en porterait mieux au demeurant. Encore une fois, c'est simplement un décalage. C'est l'hypercommunication pour dire finalement rien du vide, pour créer du contenu du vide qui va en plus se mélanger. C'est-à-dire, vous avez la publicité pour les voitures qui vous dit de marcher. Et puis juste après, il y aura peut-être une publicité pour une chaîne de restauration rapide américaine dans laquelle vous regardez le menu, vous avez déjà pris 2 kilos. Quoi. Donc, si vous voulez, il y a un décalage permanent, encore une fois, entre cette communication et la réalité. Et ce qui rend de plus en plus, d'ailleurs, le consommateur, ou en tout cas la cible de ces communications, de plus en plus blasé et de moins en moins alerte, finalement, au message. Et ce qui fait que se développe. Il y a des véritables retours en arrière avec le retour des médecines New Age où effectivement on soigne un cancer en buvant un jus de carotte. Mais parce que tout devient relatif, il y a tellement de messages que tout se brouille, on comprend plus rien à rien et donc finalement, bon, le jus de carotte, pourquoi pas. Voilà. Donc ces messages sont non seulement inutiles, mais ils sont en plus contre-productifs, sans oublier le fait qu'ils sont profondément méprisants pour les citoyens que nous sommes.
Mais l'État pense à tout. Hein. Il y a un an, on recevait des consignes pour avoir des kits d'urgence chez nous. Fallait avoir des concerts, des pays. Radios. Ouais.
Moi, j'ai pas reçu. Mais non, mais la gestion bon père de famille est morte dans ce pays. Bon, déjà, dire gestion bon père de famille, c'est un peu patriarcal. Donc, forcément, ça dénote d'un état d'esprit qui ne plaît plus à nos élites. Mais qu'on impose dans les bureaux et dans tout le secteur tertiaire d'éteindre les ordinateurs, les photocopieuses et les lumières dans les bureaux le soir avant de partir en repos, c'est quelque chose qui aurait dû toujours existé, et c'est même un scandale que ça n'ait pas existé avant les problèmes énergétiques qu'on a pu connaître suite à la guerre en Ukraine ou ce genre de choses.
Mais est-ce que c'est vraiment à l'État de s'abaisser à ce niveau de consigne?
Est-ce que c'est l'État? Je pense que l'État n'a pas forcément à s'abaisser à ce niveau de consigne. Après, je suis pas complètement contre le fait qu'un État donne des grandes directives. Moi, je pense que ce qui est plus... Le sujet est plus large que les simples choses dont on se moquait, c'est-à-dire les conseils sur la santé, etc. Mais c'est l'État qui vient à imposer des normes jusque dans la manière dont vous construisez votre maison, à vous imposer des diagnostics immobiliers, à vous proposer des dispositifs toujours plus loufoques. Je crois que vous vouliez parler des pompes à chaleur pendant l'émission, François Charmeau. Ça participe de ces mêmes états d'esprit.
Effectivement, c'est les annonces récentes de Sébastien Lecornu en termes de d'énergie et notamment de chauffage pour les maisons individuelles sont assez révélatrices. Alors, ça sert à rien on va pas en débattre, 45 minutes, mais néanmoins, c'est intéressant de s'y attarder. C'est-à-dire que, grosso modo, les annonces, je les résume à grands traits, c'est un encouragement assez fort, une incitation très forte de l'État à se convertir, pour ceux qui ne le seraient pas déjà, à l'énergie électrique pour se chauffer. Et donc, dans le cadre des maisons individuelles, notamment, là, le dispositif de pompe à chaleur qui permet de chauffer sa maison avec une énergie complètement électrique parce que en France, supposément, nous serions souverains complètement et durablement grâce au nucléaire sur la question électrique. Mais devant le constat que ces dispositifs sont extrêmement onéreux à installer, l'État se proposerait de finalement louer ces dispositifs à ceux qui en bénéficieraient, et donc finalement le consommateur, le propriétaire donc de la maison, paierait une location pour son système de chauffage qu'on lui a pas nécessairement imposé. Puisque nous sommes pas encore tout à fait en URSS, mais finalement
on lui impose quand même de se chauffer d'une manière, puisqu'on lui interdit une autre manière de chauffer,
voilà,
on
discrimine.
Il a pas eu tellement le choix, puisque d'une part on va lui interdire les autres manières de se chauffer, et d'autre part, s'il n'est pas aux dernières normes, il ne pourra pas ni louer ni vendre sa maison, etc. Avec le
quiconque a rempli une cuve de fioul récemment, c'est la problématique que représente le fait de se chauffer actuellement.
Donc plus largement, en fin de compte, l'État, au lieu de permettre à chacun d'évoluer, d'avancer, de s'en sortir aussi, et d'avoir peut-être les rênes de sa vie, propose un système non plus ni matriarcal ni patriarcal, mais là complètement esclavagiste. C'est-à-dire que à la fin des fins, tout ce qui restera de la propriété, c'est un vague papier signé chez un notaire, et puis c'est tout, puisqu'on sera locataire de sa voiture, on sera locataire de son dispositif de chauffage, on peut déjà être locataire de son frigo, on peut être locataire de son sèche-linge, tout ça aujourd'hui c'est possible. Alors on loue pas la même personne à chaque fois, c'est quand même, voilà, on peut encore choisir à qui on loue. Néanmoins, on voit bien qu'il y a une toile qui se tisse comme ça autour de nous, qui de plus en plus réduit à la fois nos libertés et en même temps nos capacités à fonctionner par nous-mêmes.
Et puis, l'État change de braquet tous les 18, 24, 36 mois, l'État et l'Union Européenne en toile de front, parce que bien souvent, toutes ces décisions-là sont héritées de décisions prises à Bruxelles. Souvenons-nous, il y a quelques années, l'emballement sur le photovoltaïque. Il fallait que tout le monde mette des panneaux photovoltaïques sur les maisons, notamment les maisons individuelles. Et là, donc, c'était quelque chose, un dispositif qui était assez coûteux. Mais ce qu'on avait proposé aux gens, c'est vous installez des panneaux solaires sur votre toit, vous générez de l'électricité. L'électricité est utilisée pour votre consommation personnelle. Et le surplus est racheté par... ERDF.
Je me permets de vous corriger. C'était les gens n'utilisaient même pas ce qu'ils produisaient. Les gens avaient leur abonnement EDF classique où ils payaient 10 et tout ce qui était produit par le photovoltaïque était revendu à 50. Il n'y avait même pas d'intérêt à utiliser ce qu'on produisait.
Et toujours est-il que là, on a appris que le dispositif s'arrêtait. Vous ne pouvez plus revendre d'électricité EDF. C'est fini. Donc on a des gens qui sont endettés, qui ont pris souvent des gros crédits, et dans la manière de rembourser le crédit, on se disait bon, même si on nous, comme vous le disiez justement, Jérôme, c'est une petite part, malgré tout, c'était quelque chose, c'est une rentrée d'argent qu'on va avoir, même si elle est faible, c'est une rentrée d'argent qu'on peut compter dans votre budget. On vous dit bon, ben là, j'ai tant qui sort. J'ai ça qui va être acheté par EDF, donc ça me permet de... Ben non, ça c'est quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain, alors que ces personnes ont installé des panneaux photovoltaïques.
En fait, il y a eu un moment, un glissement, quant à l'élaboration, un glissement dans l'histoire, que je ne saurais pas situer, mais quant à l'élaboration des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique collective qui était empirique, basée tout simplement sur... ce qu'on a appris à travers le temps, à travers l'histoire. Donc, c'est typiquement, on a découvert l'électricité, donc on l'a installée dans les maisons individuelles avec des fils en tissu. Bon, au bout de 30 ans, on s'est aperçu qu'effectivement, ça prenait feu. Tiens, on va passer au cuivre. Voilà. Donc, il y avait quelque chose d'empirique, comme ça, de logique, basé sur le bon sens, etc. Aujourd'hui, toutes ces normes, toutes ces réflexions, elles ne sont plus basées sur l'expérience, elles sont basées sur l'idéologie. Parce que il y a la guerre à l'est de l'Europe, eh bien, il faut absolument ne plus être dépendant du gaz. Parce que le détroit d'Ormuz est bloqué, il faut plus être dépendant du pétrole. Mais ça fait quand même 40 ans qu'on sait que le pétrole vient plutôt de cette région du monde, chez nous.
Bon, et qu'elle est instable.
Donc on voit bien que potentiellement, on est passé, encore une fois, d'un monde... tout du monde un pays qui réfléchissait sur son histoire, hein, je vais paraphraser Dominique de Villepin, feu candidat à la présidentielle, un vieux pays, la France d'un vieux continent, et ben, on est passé de ça à une société qui élabore ses politiques publiques d'abord avec l'idéologie. Donc nécessairement, ça ne peut pas fonctionner. La réalité se frotte en permanence à l'idéologie.
Et d'ailleurs, on peut se poser une autre question sur l'énergie. C'est que le nucléaire, qui a été une grande réussite de la France, et il faut pas le mentir, c'est est-ce que cette réussite va tenir dans les années suivantes? Moi, je parle pas de la qualité de nos techniciens et de nos ingénieurs qui sont de grande qualité, même si on en a perdu, notamment à cause de François Hollande et d'Emmanuel Macron, en fermant Fessenheim, en disant qu'on allait pas rouvrir nouvelle centrale. On a perdu des talents, on a fermé des filières, on a perdu du temps, des gens à former. Mais moi, l'autre paramètre qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on est sûr d'avoir demain l'uranium suffisant pour enrichir nos centrales? Parce que la France a beaucoup de qualités, mais la France ne produit pas d'uranium sur son territoire. Ni peut-être un peu dans son outre-mer, mais c'est vraiment à la marge.
Et une autre question qu'on peut se poser, et on remercie l'auditeur qui nous a envoyé cette question, c'est « Messieurs, à quand les kits d'urgence contre les attaques au couteau ou les agressions pour une clope ? Que l'État me protège contre les nouveaux barbares, je m'occupe de mon cholestérol. »
Alors, cet auditeur, je remercie, c'est une très bonne question. Et vous voyez, on peut faire le lien, c'est marrant parce qu'on peut faire toujours le lien entre nos différentes discussions. On a des groupes militants nationalistes qui, il y a quelques années, avaient fait des patrouilles dans les réseaux urbains de transport, dans le métro notamment, à Lille, à Lyon, à Paris, je crois, en disant attention, en allant dans des stations où il y avait déjà eu des agressions au couteau, des violences caractérisées, et en disant attention, dans cette station, tant de personnes ont été poignardées, donc en venant avec souvent des manteaux un peu fluo, bon, c'était des opérations, oui, bien sûr, de propagande politique, d'agitation, ouais. Mais c'était aussi un moyen de montrer les défaillances de l'État. Je ne vous cache pas que les personnes qui ont été le plus embêtées dans ces agitations, ce sont les agitateurs, donc les militants qui pointaient du doigt la défaillance de l'État, bien plus promptement et rapidement que bien souvent les agresseurs.
Je crois que l'auditeur, malgré tout, je ne sais pas si sur son message était écrit sur le ton de la boutade, mais a parfaitement résumé la situation. Il y a un État défaillant dans tous les domaines. Là, l'auditeur pointe celui de la sécurité, mais c'est pareil pour l'éducation, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour l'enseignement, la culture, enfin pour tout. L'État est défaillant dans absolument tous les domaines, mais nous explique quand même voilà, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas boire, etc. etc. Voilà, donc...
Et puis pour le cholestérol, on pourrait rencontrer cet auditeur, je suis sûr qu'on s'entendrait très bien et ce serait très sympa.
L'invitation est lancée. L'État s'occupe aussi de nos retraites et il y a un observatoire, l'Observatoire Hexagone, qui a publié une étude cette semaine sur le fait que l'immigration ne paiera pas nos retraites. Mais avant de venir à ce sujet, je viens de prendre un message d'un auditeur de Radio Courtoisie. Bonsoir à tous, une info concernant le DPE, il ne s'applique pas aux résidences particulières de moins de 50 mètres carrés, donc une maisonnette sur un terrain échappe à cette contrainte énergétique. La même surface en copropriété, en revanche, est soumise au diagnostic. Allez comprendre ces finasseries. Est-ce pour éviter la multiplication de masures potentielles abandonnées sur des terrains privés faute de location ? Interrogation, je n'en sais rien. Belle émission. Bah, merci beaucoup pour votre message. Je ne sais pas si
François... mais c'est une précision qui peut être très utile pour ceux d'entre nous qui vivent par exemple seuls ou qui ont une famille à taille réduite. C'est intéressant de savoir que effectivement, dans le cas précis cité par l'auditeur, avec 50 mètres carrés, on peut échapper à toutes ces règles kafkaïennes.
On y échappe pour l'instant parce que ne doutons pas que une
Bruno
fois que
Retailleau va régler ça.
Quand l'étau se resserre toujours progressivement.
Alors, ce message a percuté ma transition sur l'État qui s'occupe encore de nous, s'occupe de nos retraites. L'État s'occupe aussi beaucoup d'immigration. Et l'Observatoire Hexagone a sorti une étude qui disait que l'immigration ne paiera pas nos retraites. Je crois que Jean Hernis s'est un peu penché là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'est-ce que, en résumé, nous dit ce texte ?
Moi, j'ai envie de prendre de la distance sur ce texte, pardonnez-moi, Adrien, mais actuellement, je pense qu'on raisonne toujours autour de l'immigration en termes économiques. Et je pense que c'est quelque chose qui est fallacieux. L'immigration, c'est avant tout quelque chose que philosophique. Est-ce qu'on veut, oui ou non, qu'on ait toujours plus d'immigration dans notre pays ? Je lisais récemment une étude de l'INED qui déclarait qu'un livreur à vélo faisait 63 heures de travail hebdomadaire. Donc 63 heures de travail hebdomadaire. En considérant que ce livreur à vélo travaille tous les jours, il fait 9 heures de travail par jour. Alors, je sais que c'est le lot de bien d'indépendants et de bien de personnes dans le désencadrant tout ça, mais c'est quand même pas rien pour 9 heures de vélo par jour, pour un salaire inférieur à 1000 euros par mois. Donc comment voulez-vous que ces postes, les livreurs à vélo, qui sont bien souvent occupés par des gens issus de l'immigration ou des immigrés, comment voulez-vous que ces gens payent des retraites ? C'est-à-dire, c'est irréaliste. Et au-delà de ça, est-ce qu'on a besoin de ce service ? On a une gauche qui nous fait des leçons de morale sur le colonialisme toute l'année, mais qui n'est pas gênée pour déraciner des gens pour faire nos basses besognes. Payer les gens à un prix intéressant et à un juste coût permettra certainement de faire retrouver un sens à des travaux pénibles. On ne trouvera peut-être plus de livreurs à vélo, bien qu'on avait auparavant quelques étudiants qui s'adonnaient à ces missions. Mais pendant des millions d'années, on s'est bien passé de ces services. Je pense qu'en vérité, on cherche toujours des arguments.
Des retraites, d'ailleurs.
On cherche toujours des arguments économiques, notamment sur l'immigration. Et je pense qu'il faut sortir de ce carcan.
Mais
il faut vraiment raisonner l'immigration en termes de choix. Peu importe le prix que ça coûte, est-ce que les Français veulent ou non ce choix ? L'immigration. Et il faut arrêter de dire « Oui, mais parce que ça permet d'avoir des salariés, mais ça permet les retraites. »
Justement, moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans l'étude et vous en êtes écarté. Et la question est légitime. Moi, je vais brosser un peu ce qui est dit parce que c'est très intéressant. Ça fait écho à ce que vous dites. Et puis après, je laisserai réagir Jérôme et François. Parce que, en fait, l'étude, elle dit... elle part du constat que la démographie française, comme dans toute l'Europe, c'est une dynamique qui s'est transformée et la part des plus de 65 ans est passée de 15% en 2000 à 20% aujourd'hui, etc., etc. Du coup, ça exerce une pression sur le système des retraites et on nous dit depuis des années que l'immigration pallie à ce problème parce que le fait qu'il y ait du sang neuf fait qu'il y a plus de personnes actives pour payer les retraites. Donc là, c'est la question économique dont Jean dit il faut se détacher. Et là, en fait, l'étude est très intéressante parce qu'elle dit cette intuition qui dit que l'immigration va compenser le nombre d'actifs qui manquent pour payer les retraites. Et c'est complètement faux parce que quand on fait des calculs, pour stabiliser le ratio actuel, il faudrait multiplier notre solde migratoire par 3,5 chaque année, ce qui est délirant en termes de faisabilité. C'est un scénario qui est complètement irréaliste, sachant qu'en plus, il y a de plus en plus de personnes qui considèrent quand même que l'immigration est un problème.
Il y aura plus assez
d'élèves en force. Et qu'en plus, si on avait, à l'inverse d'un programme d'immigration massive, un scénario de suppression totale de l'immigration, ça n'entraînerait qu'une variation relativement modeste du ratio de soutien et il passerait de 2,5 à 2,32 en 2050. En fait, du coup, les gens qui disent l'immigration est une solution économique au problème des retraites, soit sont des menteurs, soit sont des gens qui n'y connaissent rien. Et je trouvais l'étude assez bien, mais bien sûr que la question fondamentale, et elle est posée par Jean-Yannis, c'est est-ce que les gens veulent de l'immigration ou n'en veulent pas après.
Et puis, pour combattre cette idéologie, parce que c'en est une maintenant, qu'est l'immigration, je crois qu'il faut aussi prendre garde, en tout cas, à ne pas tomber dans le trop technique. C'est-à-dire que cette étude est très intéressante parce qu'elle démonte point par point, effectivement, un argument qui est largement utilisé sur la question des retraites et qui rassure beaucoup un électorat finalement très utile au suffrage universel direct, surtout dans une société vieillissante, qui est celui des jeunes retraités ou des futurs jeunes retraités, etc. Bon, néanmoins, une fois qu'on aura réfuté cet argument, on nous opposera que oui, mais ils feront des enfants, et puis ces enfants travailleront, etc. Bon, c'est un débat sans fin dans lequel on risque de s'enfermer si on accepte ce terrain. Je crois qu'il faut refuser ce terrain et apporter un peu de, pour le coup, j'avoue, de radicalité sur cette question. L'immigration, il faut la refuser, qu'elle soit choisie, qu'elle soit assimilée, pas assimilée, il faut à présent, on est à un stade d'avancement de notre civilisation, en tout cas de périssement de notre civilisation, auquel, tout simplement, nous sommes obligés de refuser toute forme d'immigration pour quelque motif que ce soit. Et les problématiques qui sont les nôtres, celles de, effectivement, du vieillissement de la population, eh bien, il faudra les affronter, j'allais dire, entre nous. Et je crois que les Européens, parce qu'il n'y a pas que la France qui est concernée par le sujet, ont largement démontré à travers l'histoire qu'ils sont capables, ils ont des ressources, on a des idées, et on est capable de se débrouiller un petit peu par nous-mêmes. En tout cas, si on avait eu besoin des pays du Sud pour se développer, je crois que ça se saurait. Donc effectivement, sur ces questions, il faut être capable, j'allais dire, d'un petit peu de radicalité, même si l'étude est effectivement très intéressante. Et j'avoue que moi-même, j'étais un petit peu surpris en la découvrant, notamment ce que vous évoquiez à l'instant, Adrien, sur les points de soutien.
Nous savons avoir un problème de retraite, nous savons avoir un problème d'immigration, avec deux problèmes, on ne fait pas une solution. C'est qui va payer nos retraites? En fait, on devrait déjà se dire que c'est à nous de payer nos retraites. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? Qu'avons-nous besoin d'aller chercher ailleurs des gens pour payer nos retraites? On devrait payer nos retraites nous-mêmes. C'est au système de s'adapter, alors, capitalisation... ou système en commun, ça sera un autre débat, mais on devrait payer nos retraites nous-mêmes.
Nous avons le message d'un auditeur qui parle du problème dont parlait Jean-Hernis, c'est-à-dire les livreurs Uber. Enfin, c'est ouais, personnes qui
ne payent pas sûrement de cotisations d'ailleurs.
C'est ça.
Donc ils ne paieront pas leur retraite.
C'est les réseaux d'esclavagistes et le message de l'auditeur
est
parfaitement juste.
Il dit « Toute personne qui a recours à Uber pour ses transports ou la livraison est un complice de l'immigration. Avant de demander des solutions à nos politiciens, il convient d'avoir individuellement des positions cohérentes. Jeanne, au secours. » Donc je pense que tous autour de cette table, nous sommes assez d'accord pour dire que les gens qui font appel à ces réseaux d'esclaves pour leur espèce de confort personnel, enfin, qui se... Alors je vais faire de la morale et je vais faire comme l'État qui prend soin des gens. Je veux dire, en plus, qui se bousille la santé en promenant des produits qui sont dégoûtants.
La santé, le porte-monnaie, parce que le comble de l'histoire, c'est que c'est hors de prix. Enfin, je veux dire, par rapport à un restaurant, par rapport au fait d'aller au restaurant, vous avez un surcoût qui est énorme, qui évidemment ne va pas dans la poche du pauvre OR qui roule par moins de 2 degrés sur son vélo, souvent d'ailleurs qui n'est pas toujours le sien, avec des papiers qui ne sont pas les siens non plus. Donc, in fine, si vous voulez, on est dans une espèce de situation qui est ubuesque, mais où chacun participe en fermant plus ou moins les yeux, parce que c'est confortable d'avoir effectivement un plat chaud un dimanche soir à 22h.
Mais c'est pas ça qui a payé la retraite de Jérôme.
Ah non, et ni la vôtre. L'économie de la flemme perdurera, mais non, c'est...
Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce que font les autres pays. On a le modèle européen, qui est un modèle essentiellement basé sur l'immigration, encore pas tous les pays. On peut penser à la Hongrie, la Pologne, qui sont en train de se fermer à l'immigration extra-européenne. Mais voyons par exemple en Asie, la Chine va avoir un problème de retraite prochainement, parce que la Chine, avec l'enfant unique,
ouais,
forcément ça va poser des problèmes.
Et des gens qui partent en retraite à 50 ans parfois.
A fortiori quand vous avez autant une population si grande. Et on a d'autres pays tels que le Japon. Le Japon est un pays vieillissant, où on ne fait plus d'enfants non plus. Donc là aussi, tout ça, bon, l'État, au lieu de nous demander de manger, bouger, pourquoi on a autant de mal-être dans nos sociétés, pourquoi on a tant de problèmes d'addiction à la drogue, à l'alcool, à la nourriture de mauvaise qualité, parce que ça aussi c'est une addiction...
Il y a plein de médicaments en France, surtout.
Aux médicaments, évidemment. Pourquoi il y a un instinct de mort qui plane au-dessus de nos têtes et que les gens ne veulent plus se reproduire? Tout ça concourt à la situation dans laquelle on se retrouve. Et à cela, chaque pays ne propose pas la même réponse. On a des pays en Asie, je reparle du Japon, où on fait le pari de la robotisation. Donc il y a un pari qui peut interroger également. Mais on dit l'immigration ne réglera pas nos problèmes. Par contre, la robotisation en partie, parce que ça fait tourner quand même les industries qui restent dans le pays, parce qu'on forme des ingénieurs, et parce qu'au lieu de demander à des gens de l'autre bout du monde de venir nettoyer les fesses de nos parents dont nous ne nous occupons plus, nous allons demander un robot de le faire. C'est aussi sordide de voir cela ainsi, mais c'est un autre choix de civilisation.
Et bah là, attendez, je suis désolé, mais c'est pas réjouissant pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent religieusement. Vous proposez...
Ah non, c'est pas ce que je propose.
Non, c'est pas que vous l'avez proposé. Vous nous présentez, j'ai l'impression à vous écouter que du coup on se retrouve confronté à un mal ou à un autre, soit l'immigration-invasion, soit la techno-robotisation.
La solution à ça, elle est comme souvent dans une forme
de
troisième voie, bien sûr. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on s'interroge sur, encore une fois, les causes profondes du problème. Vous parliez tout à l'heure, pardon, Jean, effectivement, du manque de perspective. On en a parlé dans des émissions précédentes, avec je me souviens des numéros d'éléments, la revue Éléments qui était consacrée justement à la question de la famille, de son renouvellement. Toutes ces questions qui relèvent finalement de la vision du monde, de la confiance qu'on a en l'avenir. Peut-être que c'est là qu'on pourrait aussi attendre, je ne sais pas si c'est l'État ou en tout cas la société, le collectif. Il faut qu'il y ait une vision collective de l'avenir, il faut qu'il y ait une ambition collective de l'avenir. Mais tout ça ne peut être adossé, et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission à propos de la force supposée d'un État idéal. Elle n'est possible que si cet État répond à une aspiration profonde des citoyens, à un but profond, religieux, idéologique. Jusqu'à présent, c'est plutôt le religieux qui a fonctionné à travers l'histoire, mais bon, après tout,
longtemps, mais
voilà, plus que 5 ans, en tout cas, bon, c'est plutôt la religion, mais il faut jamais insulter l'avenir. Toujours est-il que tant qu'il n'y aura pas ça, il est difficile de voir comment on pourrait de nouveau retrouver des peuples qui n'ont plus honte d'être eux-mêmes, qui ne se réfugient plus dans une espèce de vénération de l'étranger, qui court toujours plus vite, qui est toujours plus musclé, et qui est toujours plus ceci ou plus cela.
Et ça me flatte parce que vous m'avez regardé quand vous avez dit toujours plus musclé.
Bah oui, c'est ça.
Je te l'ai dit à nos auditeurs quand même.
C'est vrai. C'est un petit complexe, genre en vous regardant. Plus sérieusement, effectivement, tant qu'on n'aura pas retrouvé cette vision d'avenir, il est impossible de sortir de ce dilemme dans lequel nous sommes nous-mêmes placés par ailleurs.
Qu'on s'entende bien. Je ne dis pas que le choix est entre le tout immigration et le tout robotique.
Je ne dis pas que vous avez dit ça, vous avez présenté que ces deux solutions.
Même si on a senti que vous aimez bien les robots.
Pas plus que ça. J'aimerais bien en avoir un de compagnie, ça doit être très marrant, j'imagine.
Apaisant.
Je voulais le remplacer à la maison, mais bon, bref. toujours est-il que je le disais, je le pense sincèrement, je suis fondamentalement attaché à la troisième voie, et c'est pas un paratonnerre, un paravent ou une astuce facile de dire troisième voie. Non, c'est de temps en temps prendre du recul sur les choses et se dire, prenons peut-être ce qui marche bien chez nous Européens et ce qui marche bien chez les Japonais, et voyons ce qu'on peut en faire. Et c'est souvent ça ce qui est intéressant, c'est de puiser dans ce qui marche bien. Et ce qui marche bien, l'Europe, notre continent, vous le disiez tout à l'heure, c'est un vieux pays, un vieux continent, et on n'a pas besoin de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas depuis 20-30 ans. On peut voir ce qui marchait il y a 1000 ans, la solidarité, la subsidiarité, pardonnez-moi, et tous ces concepts qui font qu'on peut trouver des solutions en nous. Elles sont en nous, ces solutions, plutôt que de les chercher ailleurs et dans une technologie qui, même si elle est intéressante, est insuffisante.
Alors, je vais vous poser une question d'un auditeur. Alors, peut-être, il reste à peine 5 minutes, donc peut-être qu'un des trois répondra pour tout le monde, ou voilà, disputez-vous. Mais un Olivier pose franchement la question, il met les pieds dans le plat, et je pense que ça pourra faire l'objet d'une émission. En quoi la robotisation est-elle sordide? Qui a envie de nettoyer les fesses de ses parents? C'est posé comme ça. Je pense que ça demanderait une large émission de débat sur la technique, sur le monde qui arrive. Mais peut-être que François Charmeau.
Peut-être pour répondre très rapidement à cet auditeur, parce qu'effectivement on a que 5 minutes. Je crois comprendre en tout cas qu'à travers sa question, il pose plus largement celle du rapport à la technique et, j'allais dire, au futurisme. Voilà. Et donc, en bon élève, je le renverrai, je suis sûr qu'il l'a lu, et je renvoie les auditeurs qui ne l'ont pas fait à la lecture de l'archéofuturisme de Guillaume Fay, qui est, je crois, un écrit tout à fait avant-gardiste pour l'époque où il a été écrit, je crois que c'était à la fin des années 90, et qui résume assez bien, je crois, une forme, encore une fois, de troisième voie, de synthèse en tout cas, de ces questions. Non, il ne faut pas refuser la technique pour ce qu'elle est, il ne faut pas refuser le progrès pour ce qu'il est. C'est absolument pas d'ailleurs dans les gènes et dans les veines de notre continent, c'est quand même nous qui avons inventé la roue, hein, rappelons-le. Non, plus sérieusement, il ne faut pas refuser la technique pour ce qu'elle est. En revanche, il faut en rester maître, évidemment, j'enfonce une porte ouverte. Néanmoins, la technique n'empêche pas la subsistance de valeurs ancestrales. Et si on prend l'exemple précis sur le fait de effectivement nettoyer s'occuper de ses vieux parents, je crois que ça fait quand même partie aussi de nous, de notre histoire. Alors jusque dans ce niveau de détail, j'avoue que je me porte pas spécialement volontaire, mais néanmoins, je crois que c'est Henri Vincenot, dans un de ses romans, la Bilbaude raconte comment il vit avec sa famille, et il a une très belle phrase que je ne vais pas citer précisément parce que c'est de tête, mais il explique que la famille française telle qu'elle était constituée dans les campagnes françaises au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on vivait avec 3 ou 4 générations, réglait à la fois le problème de l'EHPAD et de la crèche et de la maternité. Et c'est parfaitement juste. Donc effectivement, des solutions naturelles existent, ce qui n'empêche pas au demeurant d'avoir un robot pour servir des bières. Enfin voilà, oui, donc, je crois qu'il ne faut pas être opposé à la robotisation par principe orthodoxe.
Et pour faire la jonction avec le sujet sur l'immigration, est-ce que l'immigration doit nettoyer les fesses de nos parents? On n'en a pas envie non plus. C'est, l'immigration ne relancera pas l'économie, l'immigration ne relancera pas le PIB. À nous de le faire sans immigration.
Merci pour ces paroles fortes. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je voulais remercier François Charmeau, Jean Hernis et Jérôme L de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je remercie les auditeurs qui nous ont écoutés, ceux qui nous écouteront et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous poser des questions. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée sur les ondes de Radio Courtoisie.
Entendre le Libre Journal de Benjamin Blanchard, dirigé successivement par Benjamin Blanchard et à l'instant par Adrien Renoir. Émission diffusée en direct sur Radio Courtoisie, samedi 9 mai 2026 de 18h à 21h, réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.